On est donc en direct du studio de La Grenouille, où on vient d'écouter avec vous ce document de Christine Breton et Xavier Thomas. On est avec les deux auteurs de ce document. Et on est également avec Jean-Louis Joanneau, professeur d'histoire donc à l'université, et Lucien Vassal, ancien maire des 15e et 16e arrondissements et romancier.
Et donc moi, maître de conférence.
Maître de conférence, Jean-Louis Joanneau. Et avant de peut-être de revenir avec Christine Breton et Xavier Thomas sur la réalisation de ce documentaire, on va peut-être recueillir les impressions à chaud de nos deux invités. Je ne sais pas qui veut commencer comme ça, carte blanche. Jean-Louis.
Jean-Louis me regarde, donc je vais commencer. Non mais rapidement, bon, c'est un document d'une richesse exceptionnelle qui mériterait bien d'autres émissions pour arriver jusqu'au bout de ce qui a été abordé. Dans l'histoire de non seulement des Égalades, mais la particularité du ruisseau des Égalades, c'est qu'en fait, il traverse tous les quartiers du Nord. Hein. Partant du secteur industriel de Septem, je pense aux usines du Clos, avec les pollutions dont on a longtemps débattu dans les quartiers, jusqu'à pratiquement à Rennes, à l'arrivée au débouché sur le port.
À la Grande Tour.
La Grande Tour, exactement. Alors, et puis en traversant donc physiquement les quartiers du Nord, il a vu sur les deux rives se construire le Marseille moderne en partant des cités de Calisté, par exemple, sur la partie est du ruisseau, puis plus bas la Savine, ensuite le 38 Laviste, bon, les Égalades bien entendu, et puis toutes les autres, bon, je n'y reviens pas, tout le monde ne les connaît. Et moi, en écoutant ce document, je refaisais une traversée, ma traversée des Égalades, où me permettaient les auteurs du document de parler de ma traversée des Égalades, mais il y a 60 ans, plus de 60 ans même. Elle était très rapide, elle se faisait en carriole, avec des petites carrioles à roulement, des roulements qu'on récupérait dans les usines de métallurgie du coin, de Noël et Pellegrini ou sur le port, et on descendait cette pente de la rue René d'Anjou à toute vitesse et on traversait jusqu'en bas, au risque d'accident. Voilà, donc c'était un peu une traversée, c'est avec beaucoup d'émotion que j'entendais un petit peu revivre au travers du document ces zones-là. Et puis en même temps, ça me touche de plus près parce que sur une partie de ce qu'on appelle le Biau, parce qu'on n'a pas prononcé le nom du ruisseau Caravelle ou du Biau pour tout le monde, le ruisseau des Égalades, c'est le Biau. Je revois d'abord mon grand-père qui a construit le chalet de l'Ermitage. On parlait tout à l'heure dans le document des fêtes des ouvriers du livre dans la propriété de Bernard Falque de Besor. Il y avait ensuite, après ces fêtes-là, il y a eu les grandes fêtes des années 25 jusqu'à pratiquement 40, même après, puisqu'après la guerre aussi, où on voyait venir dans le chalet de l'Ermitage, qui avait été construit et qui était tenu par mon grand-père, des artistes tels que Yves Montand, qui étaient débutants bien entendu, qui venaient débuter là, Rélis par exemple, et Fernandel, que mon père, il m'en parlait encore ce matin, puisqu'il est dans sa 100e année, mon père, me racontait encore comment il allait chercher le jeune Fernandel, donc à la Cabucelle, boulevard des Italiens, justement, et il l'amenait chanter sur la scène de l'Ermitage. Voilà, donc, comme ça, la première réaction, c'est une réaction peut-être un peu émotive, d'émotion, d'avoir vu revivre tout ça. Puis après, il y a toute la richesse sur ce qui a été abordé, sur la mémoire populaire, la nécessité de cristalliser et de garder cette mémoire populaire. Vous avez parlé d'archives, mais il y a tout ça encore. Voilà, je m'arrête pour le moment.
C'est par imprudence qu'il n'a prévu qu'une demi-heure. Parce que, bon,
il se trouve en plus que nos deux invités, Jean-Louis Joanneau et Lucien Vassal, qu'on a invités tout à fait séparément pour leurs compétences respectives, se connaissent très bien et habitent à 50 mètres l'un de l'autre, c'est ça,
voilà.
Jean-Louis ?
On se connaît depuis 60 ans, puisque j'ai 60 ans, et on habite très près, tous les deux, à Saint-Antoine. Et donc, bon, les sujets, le reportage est très riche, donc on pourrait en débattre, continuer à aller plus loin pendant des heures, c'est assez évident, puisque les auditeurs auraient 60 ans de vie... en direct, donc on va serrer. Moi, en plus, étant historien de métier, j'ai tendance à remonter très loin, hein, et à voir aussi ce Biau et ses abords à une époque, disons 26 siècles en arrière.
Hein, oui, les Ligures.
Et les Ligures, donc...
Allons-y pour les Ligures.
Bon, essayez d'imaginer, quand on est à la Solidarité, Lucien en parlait, bon, par les fenêtres, on voit un habitat Ségobriche, hein, qui a été fouillé. Bon, il n'y a rien de spectaculaire.
C'est quoi un habitat Ségobriche ?
Ben, c'est ce qu'on appelle un oppidum, hein, donc un habitat de hauteur. Et là, on peut dire, on est là dans l'image Moi, je suis assez d'accord avec ce que disait Christine, hein, cette autre façon de voir Marseille, qui est une ville qui a une richesse tout à fait spectaculaire. Donc, ces grandes cités populaires sont à un jet de pierre d'un habitat pré-romain. Hein, donc, et quand on est sur cet habitat pré-romain, ben, on a toute cette vue sur la vallée des Égalades et jusqu'à la Rade. Et donc, on voit cette ville et on comprend bien. Bon, c'est pas faire de la poésie que d'imaginer ce qu'a pu être l'arrivée de ces orientaux, donc de ces phocéens, avec une population qui était là, qui avait des préoccupations sans doute agricoles. Bon, c'est pas le sujet de l'émission, mais les Égalades, ça porte aussi ça, hein, en quelques secondes.
Et quand vous parlez de la richesse de Marseille, là, ce que vous avez en tête, c'est une espèce de densité historique ou de collusion d'époque.
C'est-à-dire qu'en vérité, après moi, quand je me promène, j'ai une autre traversée. Enfin, moi, j'étais pas casse-cou comme Lucien, parce que quand il vous dit le boulevard d'Anjou, on l'a pas décrit avec des carrioles à roulement à billes. C'est une pente de 11% avec ces carrioles sans frein. C'était du kamikaze pur et simple. Hein. Il faut aussi que les auditeurs s'imaginent. Ça faisait un bruit du tonnerre et le risque d'accident était quand même tout à fait réel. Hein, et,
il y en a eu d'ailleurs.
Oui, et il y en a eu. Hein, et donc, bon, moi, il a dit la rue René d'Anjou, ben, c'est aussi une autre étape. Hein, c'est cette étape de Marseille dans une Provence qui n'est pas la France, qui va le devenir. Hein, donc il y a aussi toute cette épaisseur dans Marseille qui est d'une ville qui va s'intégrer et devenir... totalement française, mais enfin qui vient d'ailleurs, qui n'est pas l'Île-de-France, hein, qui apporte une autre tradition totalement. Et les Égalades, alors de ce point de vue-là, sont totalement porteuses de cette tradition, puisqu'il y avait un château du comte de Provence, qui était également roi de Naples, c'est pour ça qu'on dit roi René, mais...
Et de Jérusalem.
Voilà, mais aux Égalades, il était comte de Provence, et il avait un serrelet de chasse, et donc les Égalades appartiennent à cette grande série de valabres, de tous ces relais, de toutes ces grandes propriétés qui appartenaient à la famille comtale.
Et alors, vous qui avez l'ancienneté historique de la pratique, de l'usage, de la connaissance intime de ces quartiers, est-ce que vous partagez le diagnostic de Christine Breton qui disait que la violence urbaine qui avait été commise ici relevait de la catastrophe, de la destruction de ce qui est des couches précédentes de la ville et qu'on était dans un scénario catastrophe?
Oui, je pense que c'est un scénario catastrophe. Malheureusement, l'urbanisation en France en a d'autres exemples. À Marseille, ça a été particulièrement marqué et particulièrement violent, aussi par cette idée de fond à Marseille que l'avenir l'emporte toujours sur le passé, hein, qui fait que cette ville, qui est la ville la plus ancienne de France, porte en elle aussi cette certitude que l'avenir va emporter, englober tout ce qui est le passé, et que donc on casse, on détruit, hein, mais en même temps c'est dessous. C'est vrai aussi que tout est cassé, et puis en même temps, on se promène, et puis entre deux immeubles, on trouve une porte 19e romantique, et puis on va faire un petit sondage sur un haut de colline, que ce soit au pain de sucre sur le territoire de Septem, et puis on trouve ces oppidas partout. Bon, en fait, tout y est toujours. Hein, mais après, on le met dans des livres. C'est pour ça que parler d'histoire non écrite est importante, parce que... Eh bien, ces habitats de l'époque pré-romaine, je pense que les habitants vont y boire une canette, et puis ils sont bien parce que c'est bien, mais ils savent pas forcément que c'est de l'histoire pure et que...
Lucien Vassal, vous qui avez été à une période que vous pouvez nous rappeler d'ailleurs peut-être, donc maire du 15e et du 16e arrondissement.
Oui, de 1989 à 1995. Oui.
D'accord. Vous avez aussi,
autre période.
Vous avez aussi une mémoire particulière et transversale aussi de l'histoire de ces quartiers. Est-ce qu'en tant qu'ancien maire, il y a des éléments, des ingrédients qui vous semblaient pouvoir être ajoutés encore à ce qui vient d'être entendu dans le document?
Oui, peut-être un petit bémol là, sur la violence. Bon, évidemment, il y a une grande violence, mais la violence qui a été faite à l'encontre de ces quartiers, au travers du document, ce qu'il ressort, bon, évidemment, c'était le sujet, le fossé des Égalades, on appelle ça le fossé, souvent des Égalades, c'était que cette violence était telle que je l'ai comprise dans le document. Elle était liée pour l'essentiel à l'aménagement de cette autoroute, cette percée donc autoroutière des quartiers nord. Je crois que c'est pas la seule raison de la violence qui a été faite.
Bien sûr que non, c'est aussi la violence économique.
Voilà, hein, c'est parler de la violence économique, la perte de l'industrie. Bon, c'était pas le sujet dans le document, je le comprends comme ça. Il est vrai que dans d'autres lieux, peut-être cette violence aurait été moins grande. On aurait moins détruit aussi facilement le château de Falque de Besor, le château des Égalades, etc. Mais moi, je me posais la question, en écoutant aussi ce document, en écoutant les intervenants, de savoir si cette violence n'est pas quelque part inévitable. On parlait aussi de Saviani. Je sais bien, Saviani, c'était les années d'avant-guerre et de la guerre avec ses acolytes Carbone Spirito. On sait bien le mal qu'ils ont fait, mais après la guerre, il y a quand même eu d'autres élus, d'autres stratèges politiques, et la violence, ce type de violence, si on appelle ça la violence, a continué. Et la question que je me posais, c'était que lorsqu'on regarde ces quartiers, dès le 19e, il y a eu cette violence urbanistique. Est-ce que la ligne de chemin de fer qui reliait Paris, elle est passée au travers de quartiers qui étaient aussi des quartiers historiques, puisque Jean-Louis parlait tout à l'heure d'histoire. Elle a détruit pas mal de pans d'urbanisme à l'époque. Je pense dans les années 40 à 48, puisque la ligne de chemin de fer, la traversée du tunnel de la Nerthe, la percée de la Nerthe, l'aménagement de la ligne de la Côte Bleue aussi a été intervenu sur un certain nombre de paysages urbains qui étaient ce qu'il valait à l'époque, de cabanons de pêcheurs et autres. Là aussi, il y a eu violence. J'ai pour mémoire aussi l'arrivée de l'eau à Saint-Antoine en 1850. Là aussi, il y a eu des destructions d'immeubles et les anciens. Mon grand-père en parlait, puisqu'il est né juste après, son père lui en parlait. Voilà, alors donc, il faudrait bien qu'on saisisse un peu qu'il y a aussi des nécessités, qu'il y a un certain nombre de choses inévitables. Il est vrai que, en ce qui concerne le fossé des Égalades, la violence a été plus grande. Il est vrai que les grands châteaux ailleurs sont devenus des châteaux Borély, par exemple, le parc Borély, et chez nous, cela a été détruit.
Alors même que cette vallée des Égalades était destinée à devenir un grand parc public,
un
destiné
grand
aux
parc
Marseillais,
public, c'est évident.
Et encore, évidemment, l'autoroute a ruiné ce projet.
Oui, puisque Philippe me posait la question de beaucoup plus récente sur l'action politique, il faut savoir que la ville a quand même eu la possibilité, et heureusement l'idée, alors je ne veux pas attirer la couverture à moi, mais d'acheter le massif de la Mure, les 1200 hectares du massif de la Mure. Une petite anecdote, c'est moi, j'avais appris, j'étais alors adjoint délégué aux espaces verts, à l'environnement et au cadre de vie, Christine a connu cette période, de Gaston Defer. Et j'avais appris tout à fait par hasard lors d'une émission, lors d'une mission, c'était une journée, alors c'était peut-être amusant, l'association des communes forestières des Bouches-du-Rhône. Et Marseille, en tant qu'adjoint délégué aux espaces verts, j'étais invité à la journée, c'était un dimanche, où on faisait la tournée dans le département, de l'association des communes forestières des Bouches-du-Rhône, parce que Marseille est une ville forestière. Ça amuse parfois les gens, mais c'est comme ça. Et j'avais appris par Christian de Barbarin, qui était à l'époque président de l'association des maires du département, il m'apostrophe et il me dit « Je ne comprends pas comment vous ne réagissez pas à Marseille sur le massif de la Mure. » Je ne savais pas ce qui se passait, je savais que le massif de la Mure était propriété de la Caisse des dépôts et consignations, mais c'était en vente depuis plusieurs années. C'était un dimanche et le lundi matin, je me trouvais dans le bureau de Gaston Defer. Et je lui ai dit, voilà, il faut acheter le massif de la Mure. Que veux-tu qu'on en fasse ? J'ai dit, écoute, on a Lumigny au sud, on aura un pôle d'équilibre aussi vaste, ou presque aussi vaste, au nord. Ah bon, mais enfin, ça va coûter, etc. On a discuté, puis finalement, au bout de Gaston Defer, de ce point de vue, était assez ouvert à un certain nombre d'idées. Et au bout d'un petit quart d'heure de discussion, il me dit, bon, ben ça va, on fera le nécessaire. Et il se trouve que quelques années après, c'est Vigouroux, après le décès de Gaston Defer, qui a signé l'acte d'acquisition. Donc là aussi, une action politique qui amène à un certain équilibre du point de vue donc des équipements.
La Mure.
Oui, la Mure. On aura l'occasion d'en reparler.
Merci, on continue. C'est l'évocation des souvenirs, de la mémoire orale et collective des Égalades après une courte pause musicale. Un instant. On reprend donc le fil du ruisseau des Égalades et des quartiers alentours avec Jean-Louis Vanneau et Lucien Vassal autour du document de Christine Breton et Xavier Thomas, Traversée des Égalades. Xavier, est-ce que tu peux revenir en quelques mots sur le processus de fabrication et d'élaboration de ce document, en particulier sur la démarche d'archivage sonore, qu'est-ce que ça veut dire ?
En fait, il faut remonter un petit peu plus loin que ça, parce que on sait pas notre première complicité, Christine Breton et moi. On a déjà eu l'occasion de travailler préalablement sur un projet sur le port de Marseille, dans le cadre d'une thématique antenne qui s'appelait Vue sur mer. Et puis on a déjà abordé ce territoire des Égalades avec un sujet qu'on avait réalisé sur les ermites et sur les grottes des Égalades. Et on avait constaté à ce moment-là que la richesse historique de ce quartier était considérable, qu'évidemment on en percevait au premier degré une architecture 17-18e, 19e, mais que ça nous remontait beaucoup plus loin que ça, au plus haut Moyen-Âge, voire même jusqu'au 5e siècle. Donc c'était cette immense perspective historique qui était reflétée par ce quartier qu'on avait envie de continuer à travailler. On avait réalisé quelques petites interviews dans ce registre-là, et puis est arrivé le projet mené par l'outil commun qui nous proposait d'intervenir sur ces quartiers nord de Marseille, et on a trouvé que c'était l'espace idéal pour pouvoir continuer ce travail ensemble. Ce que vous venez d'écouter là, ça représente à peu près un an de travail, alors évidemment en pointillé, hein, pas de manière continue. C'est même plutôt un puzzle, et l'ordre des interviews qui ont été réalisées, et pas du tout l'ordre des séquences telles qu'elles apparaissent dans le documentaire. C'est un puzzle qui s'est mis en place à la fin, et où on a constaté que ces différentes pièces s'emboîtaient plutôt bien. Et on est vraiment ravis, je pense que t'es d'accord avec moi, Christine, du retour qui vient d'être fait par Lucien et Jean-Louis, qui était de dire que c'était plutôt riche et que c'était quelque chose qui méritait d'être continué. Bah, c'était exactement le but qu'on s'était fixé, Christine et moi. C'était pas du tout de faire une somme, quelque chose qui soit terminé sur ce sujet, sur ce quartier, mais quelque chose qui puisse se continuer et qui puisse donner envie à d'autres de poursuivre ce travail, de recueillir et de compléter l'histoire orale de ces quartiers.
Christine Breton, votre parole court tout le long de ce document, un petit peu comme un des fils conducteurs sonores, et puis en termes de contenu aussi. Votre parole très particulière manifeste un rapport assez singulier à la ville qui est ancien dans vos champs d'intérêt, un rapport qui est affectif, qui est presque physique. Vous parlez de la ville comme de votre propre corps, on a l'impression parfois, c'est vraiment assez singulier. Et voilà, je voulais savoir comment vous définissiez vous-même votre rapport à la ville. On est dans quoi? Dans une sorte d'équivalence psychologique? Enfin, je ne sais pas, quelle est...
Mon Dieu, si mes employeurs m'entendaient. Sur les questions de psychologie. Normalement, je suis fonctionnaire et je suis astreinte à tout un tas de choses. Voilà. Et vos deux invités sont pliés de rire.
Ce sont vos amis, je suis pas responsable.
Bien, donc c'est pour répondre à votre question, oui. Ce que j'aimerais bien dire, c'est simplement effectivement que c'est corporel. Je passe mon temps à marcher. Je passe mon temps à marcher partout. À marcher, à découvrir, à essayer de comprendre avec les pieds. Oui, ça oui. Comprendre avec les pieds parce qu'il ne nous reste pas grand-chose d'autre.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que vous avez bien compris tout à l'heure que en matière d'archives écrites et de traditions écrites, c'est pas là qu'on va aller chercher la compréhension de ces espaces.
Que bien qu'il y ait des lacunes qui soient signifiantes, puisque par exemple la disparition des archives sur certaines bastides peut laisser penser qu'il y a eu un peu rapt.
Bien sûr, oui, oui. À mon avis, on a pas mal de choses comme ça, certainement. Mais aussi et surtout, comment vous dire ça ? L'écriture de l'histoire, ou la parole de l'histoire, ou le être à l'histoire, est différent au Nord, j'en suis sûre, que penser l'histoire et penser la ville depuis le Nord, ça nous oblige, mais même physiquement, à nous poser autrement, à penser autrement, à regarder autrement, à organiser le temps autrement. Alors, c'est ça le plus important.
Dans le document, justement, vous disiez que les quartiers nord de Marseille constituaient une sorte de seconde ville ou d'anti-ville ou de contre-ville. J'étais curieux de savoir si Lucien Vassal et Jean-Louis Joanneau partageaient cette idée ou si vous n'étiez pas d'accord.
Moi, je suis totalement d'accord, mais
Jean-Louis Joanneau.
Mais avec dans l'idée que la ville et la contre-ville font un ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas opposition dans le sens où l'une tournerait le dos à l'autre. Je veux dire que l'une ne se comprend pas sans l'autre. Là, actuellement, on voit bien, Lucien évoquait tout à l'heure les problèmes économiques, on voit bien qu'on a cassé la réparation navale, il reste plus belle la vie et le tourisme à Marseille. Hein. Donc, il y a une façon de vendre l'image de Marseille Et nous, on sait que cette image a quelque chose de frelaté, et même d'un peu dangereux pour l'avenir de la ville, hein, et qu'il est donc urgent de donner la contre-image, mais pas pour faire une image d'opposition, pour en faire une image de synthèse. La ville est cette image touristique, bien sûr, mais c'est aussi cette ville qui porte toute cette histoire, l'histoire du travail, l'histoire des populations qui s'y sont regroupées, qui ont bâti, qui ont détruit, enfin, je veux dire... ça me semble assez évident. Donc on a là, c'est un devoir citoyen de ramener pour l'image de la ville cette façon de la voir. C'est-à-dire, on est dans Marseille en arrivant du nord, hein, et on est au nord de la ville et on regarde quand même parfois du nord avec un œil un peu amusé certains accents qu'on reconnaît, hein, du 8e arrondissement. Je veux dire, c'est bien clair que dans les cours de récré, les enfants à Marseille parlent comme à la radio, hein, donc ils parlent 8e arrondissement et ça fait rire tout le monde dans le 15e. Donc c'est des réalités. Il n'y a pas d'opposition. Hein, ça reste toujours extrêmement amical. Mais bon, ce sont deux façons de voir la ville. Comme mon avis, on a intérêt à garder en mémoire ensemble.
C'est ça qui est intéressant, c'est cette tension entre ces deux éléments. C'est pas du tout de les affronter ou de les opposer, c'est d'observer où se situe la tension entre les deux. Et nous, on a pensé, Christine et moi, que cette tension, il fallait absolument qu'elle émerge de la parole de ses habitants. Puis il y a aussi un auteur qu'on aime bien tous les deux et qui était un peu présent dans nos esprits quand on réalisait ce documentaire, c'était Walter Benjamin, un philosophe qui est décédé pendant la guerre, dans les années 42. Et il est inscrit sur sa tombe à Portbou, puisqu'il est mort à Portbou, à la frontière espagnole. Honorer la mémoire des anonymes est une tâche plus ardue qu'honorer celle des gens célèbres. Pourtant, l'idée de construction historique se consacre à cette mémoire des anonymes. Ben c'est ça qui nous a inspiré pour ce travail.
Lucien Vassal, quel est votre sentiment ?
C'est très important le travail qui a été fait par Christine et par Xavier, parce que le fil conducteur, c'est un peu la violence faite à ces quartiers au travers d'une forme d'urbanisme qu'on ne retrouverait pas. Je le mets au conditionnel, mais je devrais utiliser même un autre temps, dans d'autres quartiers. Parce que violence, il y a eu. Il n'y a pas que plus belle la vie aussi à Marseille. Je pense que, en écoutant Jean-Louis tout à l'heure, je pensais à ce qui a été fait, par exemple, dans la ZAC de Saint-André, avec quand même près de 10 000 emplois créés en une vingtaine d'années. C'était une gageure. C'était aussi une réalité de la transformation de ces quartiers. Violence, Bernard Falque de Besor disait en gros une formule, les fiefs, il parlait en tant que Roberon. Je le connais bien, Bernard, il a d'ailleurs fait la guerre sur le front italien, son père était le commandant de compagnie de mon père. Donc les fiefs sont devenus des usines. Une autre forme de violence, c'est que les grandes bastides et les grands châteaux sont devenus des cités. Si vous parlez du plan d'Ao, le plan d'Ao, c'est le château du marquis de Foresta. Consola, Jean-Louis l'a bien connu tout près de chez lui où il est né. C'était aussi une immense bastide. Calisté, la Savine, la Castellane, la Bricarde était une immense ferme. Bon, l'autoroute a détruit, et vous parliez, on l'a abordé rapidement, mais ce qui était l'activité verte rurale, bon, des fermes. 3-4 fermes, dont la ferme qu'on appelait de Michelis, on disait à l'époque, où moi, tout petit, j'allais chercher le lait descendant de la falaise de la Viste. Voilà, tout ça, c'était cette violence. Voilà, donc, elle existe. Bon, mais voilà, la question que je me posais, c'est, il semble qu'elle existait de tout temps. La ville se transforme comme ça, avec du positif et du négatif. Une dernière chose que je voulais aborder, c'est, ce qui me paraît important, c'est le recueil des archives, alors, de la mémoire populaire. En un mot, tout à l'heure, Philippe me posait la question de comment on arrive à écrire un petit peu sur ces quartiers. Ben, c'est tout simplement parce que j'ai voulu établir ce que j'entendais par écrit. Et mes romans, puisque je le fais sous forme romancée, ne sont construits qu'à partir de la parole, de l'oralité de ce que j'entends, des anciens de nos quartiers, et je bâtis l'histoire de ces quartiers, l'histoire récente, contemporaine bien entendu, pour ce que j'ai vécu, à partir de cette... Et ça me paraît aussi une forme d'archivage de la mémoire orale.
Donc citons La colline vert de gris et La colline au genêt aux éditions de Tacucel.
Ou Enzela aux éditions Aubéron.
De Lucien Vassal.
Merci.
Oui, c'est là où je pense qu'on peut être pertinent, nous, Radio Grenouille, hein, pour être au cœur de cette mémoire orale et pour essayer peut-être de la transférer vers d'autres domaines, les archives, l'écrit ou autres. C'est là où on peut avoir un peu de sens. Je voulais juste rapidement poser une question à Lucien Vassal. Tu parlais tout à l'heure d'une fête qui avait lieu dans les années 30. Est-ce que c'était la continuité des fêtes du Gutenberg ou est-ce que c'était tout à fait autre chose?
Non, c'était tout à fait autre chose. C'était des fêtes, bon, c'était en fait une guinguette qui rassemblait jusqu'à 300 ou 400 personnes, mais qui venait d'un petit peu partout, qui venait des gens qui avaient un accent bizarre, c'est-à-dire du Prado, dont parlait Jean-Louis tout à l'heure, et qui venaient un petit peu de tout Marseille.
Et c'est toujours une salle de mariage.
C'est toujours une salle de mariage.
Très, très intéressante à aller voir, parce que juste à côté, il y a une des grottes qui est dans la continuité de la grotte Ermitage, et qui a été une grotte habitée par les ermites, et d'après notre théorie à nous, chercheurs populaires locaux, et on fait remonter tout ça au 5e.
Cette grotte était la cave, servait de cave à mon grand-père quand il tenait sa guinguette.
À l'intérieur quand même,
hein. Et ensuite, n'oublions pas qu'elle a été, parce que moi tout petit, alors sous les bombardements et les hurlements des sirènes, nous courions dans la grotte de l'Ermitage. Elle servait d'abri aux habitants anti-bombardement de la Viste.
Alors on serait bien parti pour une heure et demie encore ensemble. C'est vrai, t'es bien, mais malheureusement c'est pas possible puisqu'il y a Hank Time qui enchaîne maintenant. Je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur, Jean-Louis Janot, Lucien Vassal, merci pour votre témoignage. Christine Breton, Xavier Thomas.
Juste un mot pour rappeler que ce soir à 18h, un événement public au Merlan, on vous donne à entendre un autre documentaire sonore qui s'intitule Trajectoire, qui a été réalisé par Aline Solaire et Nicole Félix. Et puis un autre rendez-vous public aussi, c'est le 22 avril, ce sera à la Cité des Égalades. Et on mettra en discussion ce documentaire que vous venez d'écouter, Traverser les Égalades. Juste encore deux tout petits mots pour remercier pour tout leur travail autour de ce projet Nelly Fleischer et Julie Demeure.
Rediffusion des 3-8.
You know who the best playing game is? Me, Mars Blackman. And I'm way above the rim, demonstrating some serious hang time.
Hi, this is Alex Berto.
This is Natural Self.
Yo, what's up?
My name's Aaron Jerome.
Hi, this is Omar.
This is Alex Cowan, aka TM Duke.
Yo, this is Camp Diddle.
Hey everybody, this is Stephanie McKay.
This is Ho Bibble from Seth Freddy's Drop.
With DJ Mars.
Mars.
With Mars.
Mars B.
With Mars Blackman.
Goodbye, Mars.
Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 27 de la saison 1 de Hang Time, Mars Blackmon. Derrière le micro, le Big Seb, derrière sa table de marque évidemment. Ce soir, large place à l'événement de la semaine, le retour pour la 7e édition du festival Bol de Funk du 15 au 18 avril évidemment. Plein d'invités seront là, DJC, le